quelles sont les sources de la honte de son travail et quel est le coût de l'excellence? C'est à ces questions et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Vincent de Goljac, sociologue et professeur émérite à l'Université de Paris. Vincent de Goljac, bonjour.
Bonjour.
Je suis très content de vous avoir parmi nous. Et la première question que je souhaiterais vous poser est la suivante. C'est qu'est-ce qui, dans sa vie intime, ou dans sa vie même sociale, peut amener une personne à avoir honte de son travail?
On sait qu'aujourd'hui, le travail est un élément fondateur de l'identité, de l'estime de soi, de la reconnaissance sociale, de son statut, de la place dans la société. Autant d'éléments qui peuvent être facteurs de honte et ou de fierté. Et lorsqu'on décline son identité, il est fréquent de commencer par son métier, surtout si ce métier est socialement valorisé. Je suis médecin, avocat, ingénieur. C'est plus prestigieux que de dire je suis employé, ouvrier ou paysan. Donc l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle, comme disent les sociologues, est un des premiers marqueurs de la place de chacun dans la société, mais aussi de sa place dans la hiérarchie sociale. Et ce n'est pas un hasard si l'on parlait, encore il y a quelques années, de classe supérieure pour les uns ou de classe inférieure pour les autres, ou des gens d'en haut et des gens d'en bas. Maintenant, je dirais, les gens sont plus précautionneux par rapport à ça parce qu'ils ont compris que c'était facteur d'invalidation pour certains, de valorisation pour d'autres, et donc ça nous interroge. Mais pour répondre à votre question, il faudrait peut-être faire un détour historique. Dans l'Antiquité, le travail était réservé aux esclaves et aux femmes. On évoquait la distinction entre les plébéiens et les praticiens. Aux uns, les tâches dévalorisées, aux autres, les occupations nobles. Et donc, s'occuper des affaires publiques était noble, travailler était une honte. On retrouve cette distinction au Moyen-Âge entre les seigneurs et les serfs. Alors ça va changer dans l'évolution. On va vite passer, mais avec les révolutions, va apparaître dans le XVIIe siècle, peut-être avant, les bourgeois, qui occupent des positions intermédiaires entre la noblesse et les paysans. Et avec la révolution industrielle, ceux-ci vont devenir une classe dominante, si on reprend Marx, et les propriétaires des moyens de production. Et donc l'argent gagné et le capital possédé deviennent des marqueurs essentiels de l'identité sociale. Et donc chacune de ces classes sociales avait des raisons d'avoir honte ou d'être fière. Les paysans retrouvent de la fierté dans leur production, cultiver une bonne terre, des beaux fruits, des légumes, du blé, etc. Donc la qualité de la production est encore d'ailleurs une source de fierté et de reconnaissance. À l'inverse, la pauvreté de la terre et de la production peut être une source de dévalorisation. Pour la bourgeoisie, ce qui a été mis en avant et qui aujourd'hui est quand même très très important, c'est la fortune, l'utilité sociale de ce que l'on fait, qui sont des éléments déterminants de reconnaissance et de valorisation. Dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es. Et pendant longtemps, l'aristocratie, même après la Révolution d'ailleurs, méprisait les bourgeois parce qu'ils méprisaient justement le travail, ils méprisaient le fait que ce soit gagner de l'argent qui donne la valeur aux individus. Et ils fondaient la reconnaissance sur l'ancienneté, les quartiers de noblesse, sur l'honneur. Vous vous souvenez de cette célèbre réplique de Cyrano de Bergerac, moi c'est moralement que j'ai mes élégances. Et donc on voit là que combien ces trois facteurs de honte ou de fierté dans ce que l'on fait, dans ce que l'on possède et dans ce que l'on est, sont des éléments tout à fait essentiels pour comprendre là où le travail fait honte et là où il est source de gratification et de fierté. Alors juste pour terminer sur ce premier point là, le capitalisme industriel a conduit à une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. On parlait des damnés de la terre, et Marx et Engels ont proposé à cette classe un moyen de retrouver de la dignité et de la fierté dans la lutte, dans le combat. Et donc, cette idée que la lutte des classes était le moteur de l'histoire et que les ouvriers allaient pouvoir changer la société et retrouver leur fierté et leur dignité dans la lutte pour renverser l'ordre social. Alors, j'ai une hypothèse là, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qu'aujourd'hui, à l'ère hyper moderne, la lutte des classes a remplacé la lutte des classes. Chaque individu est interpellé pour faire, trouver, créer sa place dans la société. On est dans une société où on célèbre les winners et on méprise les losers. Et la honte est du côté des perdants et la fierté du côté des gagnants. Les perdants sont définis par une identité négative, sans emploi, sans domicile, sans papier, sans revenu. Et les gagnants sont considérés comme entreprenants, performants, excellents, et méritants. Ils mériteraient leur place parce qu'ils sont performants. C'est donc normal qu'ils soient bien payés. Et donc, ça nous pose toute une question autour de la signification de la valeur dans notre société, que ce soit la valeur au niveau, en termes financiers, économiques, ou la valeur de chaque individu qui va se mesurer effectivement, principalement en termes financiers.
Dans le début de votre réponse, vous avez expliqué qu'aujourd'hui, on a tendance à décliner son identité par l'appréhension de ce que l'on fait, ou par l'appréhension de son travail. Ce qui m'amène, moi, deux questions. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Et au-delà de ça, si on se définit par son travail, est-ce qu'avoir honte de son travail, c'est aussi avoir honte de soi?
La honte s'installe au croisement, en fait, du psychique et du social, de l'objectif et du subjectif. Et donc, la honte de soi est un processus d'intériorisation d'une image négative qui fait qu'on a le sentiment de « je suis nul, je ne vaux rien ». Et donc, elle conduit l'individu à se sentir responsable de sa situation. On le voit dans cette expression du passage à être pauvre, qui est une condition objective, et à être un pauvre type, c'est-à-dire une désignation stigmatisante d'une situation subjective. Et donc le lien là entre l'objectivité et la subjectivité, entre ce que l'on fait et ce que l'on est, sont tout à fait essentiels. Hannah Arendt distinguait l'homo faber et l'animal laborance. L'homo faber, c'est l'être humain qui engage sa personnalité, ses intelligences, y compris son expérience corporelle et sensible, dans la fabrication d'une œuvre. Et l'animal laborance, qui est occupé à trimer comme le ferait une bête à partir de répétitions mécaniques des mêmes gestes. Et donc le premier trouve l'estime de soi et la reconnaissance sociale dans ce qu'il fait. Le second est méprisé et dévalorisé par sa condition même, par ce qu'il est. Et donc les raisons objectives d'avoir honte sont liées à des conditions de travail dégradantes, mal rémunérées, invalidantes, là où les personnes sont confrontées à des violences humiliantes. Sartre dit « la honte naît sous le regard d'autrui ». Et pas de honte sans violence humiliante, c'est le regard de l'autre qui engendre la stigmatisation, la dévalorisation, le sentiment d'humiliation, ce sentiment d'être traité comme un objet, comme un torchon, disent certains aussi, comme un instrument, de ne pas être considéré comme un sujet, comme un être humain digne de considération, comme un semblable. Et l'esclavage était la situation la plus extrême dans ce domaine. Il y a un collègue que vous connaissez sans doute, David Graeber, qui a écrit un ouvrage en 2018 sur les bullshit jobs, les emplois de merde, les emplois à la con. Des emplois plus ou moins inutiles, totalement vides de sens, là où celui qui l'exerce a le sentiment de perdre sa dignité, la considération des autres et de lui-même.
Et vous avez évoqué plusieurs choses, notamment les raisons objectives d'avoir honte, le fait de le regard de l'autre. Mais ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est quelles sont les conséquences, on va dire, de cette honte-là et de ce regard que pose l'autre sur nous.
La honte, les conséquences sont vraiment difficiles souvent à remarquer parce que le premier mécanisme de défense face à la honte, c'est le repli sur soi, C'est une colère intérieure contre soi, hein, et donc on a tendance à s'enfermer, hein, dans le silence, dans le secret. Pour vous dire jusqu'où ça peut aller, j'ai fait des groupes avec des chômeurs, par exemple. Et dans ce groupe, il y avait une personne qui avait arrêté de sortir de chez elle depuis un an et demi. Et elle disait « J'ai tellement honte et je ressortirai de chez moi quand j'aurai retrouvé du travail parce que je veux pas me présenter devant mes enfants et devant les autres sans travail. » Et au point qu'il était devenu aphasique, c'est-à-dire qu'il parlait plus à personne. Et voyez, c'est cette force, hein, de la honte qui peut aller jusqu'à se détruire soi-même ou s'enfermer soi-même. Et évidemment, plus il s'enfermait, moins il était en possibilité de trouver du travail. Donc, c'est tout à fait important de comprendre, hein, cette force destructive de l'intériorisation du sentiment de ne plus rien valoir. La destruction de l'amour propre, on pourrait presque évoquer un amour sale, hein, par opposition à l'amour propre, mais le terme sans doute le plus pertinent, c'est la haine de soi, la haine d'une partie de soi. Et donc l'individu est alors divisé de l'intérieur entre une partie qu'il rejette pour préserver une autre qu'il valorise, ce que les psychologues appellent un clivage, où Manoni parlait d'une rupture d'identification au niveau du moi. Et donc cette violence intérieure peut exploser à tout moment. On le constate à propos, par exemple, d'une réaction défensive assez courante, hein, par rapport à la honte, c'est l'alcoolisme. Plus j'ai honte, plus je bois, plus j'ai honte. Et c'est un cycle infernal, hein, qui enferme l'individu dans une spirale, hein, d'auto-dévalorisation et d'auto-destruction. Et la honte peut aussi conduire, et conduit souvent, à sombrer dans la dépression, parce que quand le moi ne répond plus aux exigences de l'idéal du moi, comme disent les psychanalystes, ce qui est fréquent dans un univers du travail qui prône l'excellence, l'exigence du toujours plus, la performance. Avec Nicole Aubert, il y a quelques années, nous avions analysé ça dans un ouvrage qui s'appelle « Le coût de l'excellence », hein, au moment où l'excellence était, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, promue comme étant le signe d'une motivation, d'une mobilisation, sans voir que l'excellence a un coût. Et en particulier, quand on n'arrive plus à être à la hauteur des exigences de performance, eh ben, on sombre soit dans la dépression ou aussi le burn-out. Le burn-out est un symptôme, hein, de ces nouvelles formes d'organisation du travail qui sont liées à l'idéologie managériale et aux pratiques de gestion, comme le management par objectif, l'évaluation individualisée des performances, l'avancement au mérite. Je peux vous donner un exemple que je trouve très, très parlant. Hein, dans ces entreprises, au départ, c'était surtout les multinationales anglo-saxonnes, mais maintenant, ça s'est diffusé partout. On a un système d'évaluation ABCDE. E, c'est insatisfaisant. Et c'est tellement la honte que dans un univers d'excellence, hein, dans les entreprises managériales qui pratiquent, hein, cette valorisation permanente de la performance, bon, être insatisfaisant quand on a fait une grande école de commerce, qu'on en veut, qu'on est hyper motivé, c'est tellement la honte qu'on démissionne même avant d'être évalué. D, c'est « doit faire ses preuves ». Bon, vous êtes jeune, vous venez d'arriver, donc on peut comprendre que vous soyez pas encore au top, donc on va vous laisser une chance. C'est satisfaisant. Mais satisfaisant dans cet univers-là, c'est moyen, quoi. Et moyen, c'est un peu quelconque et on peut pas se satisfaire d'être uniquement satisfaisant. C'est pas satisfaisant d'être satisfaisant. C'est assez paradoxal. B, c'est above expectation, au-delà des attentes. Et voilà, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de faire 100, et en fait, on attend de vous que vous fassiez 110 ou 120. Et A, c'est clearly outstanding, c'est-à-dire, c'est là, vous êtes hors du commun, Et là, on va vous féliciter. C'est le club des 100%, par exemple, hein, pour les commerciaux dans des grandes entreprises, où on les emmène faire des week-ends aux Seychelles, à l'autre bout du monde, pour fêter l'excellence et la performance. Alors, pourquoi ce mode de fonctionnement, il a plusieurs conséquences. La première, c'est l'exigence du toujours plus, et que l'excellence mène immanquablement à l'échec. Parce que vous avez fait 100, mais vous faites 110 pour être reconnu, ben, l'année prochaine, vous n'allez pas régresser, donc le 110 va devenir 100. Et puis l'année d'après, hein, vous faites, c'est plus 110, c'est 120, etc. C'est-à-dire, c'est ça, cette espèce de spirale, hein, de l'excellence et de la performance qui fait que, immanquablement, à un moment donné, vous pourrez plus remplir vos objectifs parce que ils sont tellement élevés que même si vous vous défoncez, bah, vous n'y arrivez plus. Et on voit beaucoup de gens qui ont été excellents, qui à un moment donné s'effondrent et au lieu de s'en prendre au système qui les met en difficulté, ils s'en prennent à eux-mêmes en intériorisant que vraiment ils sont plus performants. Et quelque part, j'en ai interviewé beaucoup qui disaient ben, « l'entreprise a raison de me licencier puisque je ne suis plus performant ». Vous voyez jusqu'où ça peut mener. Et le deuxième paradoxe, si vous voulez, c'est « clearly outstanding », clairement hors du commun. Donc si l'objectif dans notre société, hein, pour être excellent, c'est que tout le monde soit hors du commun, que devient le monde commun ? C'est-à-dire que c'est un décalage structurel entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois. C'est donc un problème essentiellement économique. Mais dans les messages, hein, qui se sont mis en place quelque part, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, etc., on renvoie au chômeur la responsabilité de son chômage. Et donc, il est complètement culpabilisé et il est en permanence renvoyé à une image négative de lui qui fait qu'il se sent responsable, hein, du chômage parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est trop formé, pas assez formé, parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est un homme alors qu'on voulait une femme alors qu'on voulait un homme, etc. Et donc, quelque part, il intériorise, hein, cette image négative que s'il y a du chômage, c'est sa responsabilité. Et donc là, on déplace, hein, un phénomène qui doit être traité dans le registre économique et on le traite dans le registre psychologique.
Vous évoquiez en début de réponse à ma question sur les conséquences de la honte, le fait qu'on puisse rentrer dans une sorte de spirale d'autodestruction. Et comment on peut justement casser cette spirale-là ? Comment on peut sortir de la honte de son travail ?
Voilà, ça c'est vraiment une bonne question parce que on peut en sortir au niveau psychologique, quand on a des symptômes de dépression, de burn-out, d'épuisement professionnel, etc. Donc d'aller voir son psy et son médecin, et c'est d'ailleurs généralement ce qu'on vous renvoie, bah, tu vas pas bien, hein, donc il faut que tu te soignes. Donc ça, c'est un premier comment dire, c'est nécessaire, hein, de quand on va pas bien, d'avoir de l'aide, et quand on fait un burn-out ou quand on est vraiment, hein, malade du travail, d'aller se soigner. Mais en même temps, le piège, c'est effectivement qu'on renvoie la responsabilité uniquement à l'individu et que sur le traitement, on le renvoie uniquement à la personne et non pas au système. Alors, je vais faire un peu de sociologie des organisations parce qu'il y a longtemps que je travaille, hein, pour montrer le premier ouvrage, L'emprise de l'organisation, c'était sur IBM où on avait montré avec Max Pagès et Michel Bonetti comment les entreprises hyper modernes développaient une forme de pouvoir en rupture avec le pouvoir disciplinaire. Hein, le pouvoir disciplinaire, bien analysé par Michel Foucault, c'était une des caractéristiques de ces organisations du monde industriel, de l'usine, de l'OST, hein, pouvoir fondé sur l'obéissance au chef, au patron, au contremaître, sur le respect de la hiérarchie, sur le respect des normes. On voit que le pouvoir que j'ai appelé avec Nicole le pouvoir managinaire, il est plus fondé sur l'adhésion, l'investissement psychique, ce qu'on a développé sur un contrat narcissique, c'est-à-dire jouer gagnant-gagnant, assimiler sa réussite personnelle à la réussite de l'entreprise, et la valorisation des contributions, des performants de ceux qui sont en permanence hyper motivés et qui se défoncent au travail, et de l'exclusion de ceux qui sont les losers, qui sont pas intéressés aux résultats de l'entreprise, etc. Donc, si vous réussissez, parce que vous apportez une contribution significative à la réussite de l'entreprise, vous aurez des primes, des promotions, du succès, ce qui renforce votre motivation à vous défoncer encore plus pour remplir vos objectifs. Comme disait un manager, vous êtes condamné à réussir. Et donc ça, dans ce moment-là, les individus ont le sentiment d'être dans la toute-puissance, dans la création, dans la progression. Ils vont bien, apparemment. Si je dis apparemment, c'est qu'à l'intérieur d'eux, il y a cette espèce de petite musique disant « mais quel sens ça de se défoncer pour ça ? J'ai sacrifié ma vie familiale ou amoureuse ou sociale pour ma carrière, etc. » Mais en même temps, tant que ça marche, l'individu se sent valorisé. Mais le problème, c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, l'exigence du toujours plus mène immanquablement à l'échec. Donc, dans un premier temps, vous allez vous en prendre à vous-même et vous dire que vous n'êtes pas bon, pas performant, pas suffisamment motivé, et donc s'en sortir. Comment cette souffrance, comment on peut échapper à la spirale destructrice que ça peut entraîner ? S'en sortir, c'est trouver des mécanismes de dégagement de cette spirale. D'abord, en analysant que ce n'est pas la personne, toi, vous, qui êtes à la hauteur, mais que c'est le système qui produit le mal-être et qui vous met en échec. Et donc, pour ça, il faut prendre de la distance et dissocier, faire un travail qui n'est pas facile à faire tout seul, de dissocier la personne que vous êtes de l'identité professionnelle qui vous a façonné depuis parfois des années, et même dès votre formation, parce que vous intériorisez ce modèle, par exemple, dans les écoles de commerce, ou dès les prépas des écoles de commerce, puisqu'il faut que vous défonciez et travailliez comme un malade pour pouvoir réussir, d'être enfin admis parmi ces gens performants et qui va devenir l'élite de notre société. Et donc, le symptôme le plus courant aujourd'hui de mal-être au travail, c'est la perte de sens. Et pour retrouver du sens, il faut comprendre pourquoi le travail fait perdre au sujet ses capacités d'être, sa créativité, sa puissance d'agir, c'est-à-dire sa capacité à être un sujet. Et c'est là qu'on voit le caractère idéologique des ressources humaines. Je suis frappé par le fait que, en particulier du côté des syndicats ou de la gauche, ils n'ont pas su s'opposer et déconstruire l'idéologie des ressources humaines. Et même c'était l'inverse, on s'est dit enfin, on va remettre par rapport à l'organisation scientifique du travail, par rapport au pouvoir disciplinaire que j'évoquais tout à l'heure, il y avait cette idée, enfin on va remettre l'humain au centre en parlant de ressources humaines. Et on a développé, c'est incroyable que ce qu'on appelait les services du personnel, le service du personnel, c'était un joli mot puisque c'était une administration qui se mettait au service du personnel. Et c'est devenu ringard, c'était bureaucratique, c'était vraiment revenir en arrière, etc. par rapport à ce joli mot de ressources humaines, qui était dynamique, qui était moderne, hyper moderne, performant, etc. Or, dans le terme même de ressources humaines, on nie à l'humain la possibilité d'être un sujet, puisqu'on le transforme en ressource au service du développement de l'entreprise. Et donc, ce n'est plus l'entreprise qui est au service du personnel, c'est le personnel qui doit se mettre au service du développement de l'entreprise et devenir une ressource. Et devenir une ressource, c'est comme devenir un instrument, devenir un objet, c'est-à-dire on va le gérer quantitativement, comme on gère les matières premières, comme on gère les résultats, etc. Et on va mettre en place des systèmes d'évaluation quantitative des ressources humaines, donc les effectifs deviennent un coût, et la personne est complètement niée dans ce système.
Vous évoquiez comme conséquence, on va dire, de la honte de son travail, c'est la conséquence même de la honte, tout simplement, c'est un repli sur soi, le fait qu'on a tendance à s'enfermer dans le silence. Dans ce cas-là, si la honte est indissociable, ou même souvent indissociable, pardon, du silence, comment on peut déceler ce sentiment chez une autre personne, et donc comment on peut l'aider?
Alors ça, c'est vraiment une question importante, hein, parce que effectivement, ce que j'ai remarqué dans le travail de recherche que j'ai fait là-dessus, c'est que la honte fait peur. Et quand quelqu'un exprime ou commence à exprimer quelque chose de sa honte, on préfère le mettre à distance, hein. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Les sources de la honte avec une voix mordonne, approche-toi au plus près des sources de la honte. Et c'est pour ça que je défends une sociologie clinique. Pour moi, justement, contre ce mécanisme de défense qui est le silence, le repli sur soi, le secret, il faut développer une écoute clinique centrée sur la personne, qui ne soit pas évaluative mais compréhensive, mais aussi une écoute centrée sur les causes de la honte. La honte, elle est 100% psychique, c'est-à-dire c'est vraiment un sentiment très intime au cœur du fonctionnement psychique, et 100% social, hein, parce que si la honte naît sous le regard d'autrui, le dégagement ne peut se faire que sous le regard et avec le regard d'autrui, et dans la confrontation au regard d'autrui. Et donc si le mal-être est bien à l'intérieur, éprouvé comme quelque chose d'intime et de personnel, les causes du mal-être sont à l'extérieur, elles sont sociales, elles sont économiques, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au chômage, par exemple. Il est donc essentiel de comprendre que les sources de la honte sont liées à des situations sociales, hein, qui sont vécues par tous ceux qui partagent la même condition, qui sont liées à la pauvreté, à du travail exploité, à des conditions de logement dégradées, etc. Et donc, la honte ne peut être comprise que dans l'articulation entre l'objectif et le subjectif, entre le psychique et le social, entre l'individuel et le collectif. Je me souviens d'une personne que j'accueillais dans les groupes d'implication et de recherche, je vais vous en parler un peu, qu'on développe en sociologie clinique, qui me disait à propos de son psychanalyste, mais comment voulez-vous que je lui parle de ça? Alors, c'est étonnant de penser que quelqu'un ne peut pas parler de ça à un psychanalyste, puisque le psychanalyste est justement censé être le spécialiste du ça, mais du ça de l'inconscient, du côté des pulsions, du désir, de la sexualité. Là, il parlait de ça, c'est-à-dire mes origines sociales, la pauvreté, les situations d'abjection dans lesquelles on vivait, la violence, l'alcoolisme, cet environnement, hein, qui est totalement qu'on veut qu'on, dont on n'a pas de mots, on n'a pas de mots pour dire l'abjection, on n'a pas de mots pour parler de ça. Hein, et il disait sur un divan en cuir dans le 5e arrondissement avec des tableaux de maître au mur. Et donc, ça, c'est une question sur laquelle je suis très sensible, que les psychothérapeutes, les coachs, les psychanalystes, les psychiatres, etc., prennent conscience que par rapport à cette question de la honte, il est tout à fait essentiel de faire cette articulation entre le sentiment intérieur le plus intime éprouvé dans la profondeur, hein, de la subjectivité et les causes sociales qui produisent cet sentiment de dévalorisation, d'invalidation de soi. C'est pour ça que j'ai inventé avec d'autres des groupes d'implication et de recherche, c'est-à-dire des groupes dans lesquels on travaille en groupe. Et on travaille à l'articulation entre l'histoire de vie, le travail sur soi, c'est l'implication, et la réflexion collective sur les processus où on développe des hypothèses pour comprendre les causes du mal-être, les conflits vécus par les personnes dans le rapport au travail, dans le rapport à l'argent, dans le rapport à la honte. Ça, je vous donnerai les coordonnées de ce qu'on fait à RISC Formation. RISC, c'est le réseau international de sociologie clinique, pour développer des espaces intermédiaires entre l'espace thérapeutique, qui est tout à fait nécessaire pour beaucoup de gens, et je dirais l'espace collectif de l'action collective, que ce soit syndicale, politique, citoyenne ou autre. Et c'est pour moi une question d'autant plus importante que je pense que par rapport au mal-être au travail et à la dévalorisation vécue par beaucoup de travailleurs et cette perte de sens, le rôle des syndicats est très important. Et je suis heureux de voir que de plus en plus de représentants syndicaux se forment à la sociologie clinique, justement pour faire le lien entre les RPS, les risques psychosociaux, la souffrance au travail, et l'action collective au sein des entreprises, pour que les travailleurs retrouvent leur dignité, et puis aussi une solidarité dans les luttes. Hein. Je parlais tout à l'heure de la substitution de la lutte des places à la lutte des classes. La lutte des classes était une lutte formidablement solidaire, hein, alors que la lutte des places, elle est formidablement individuelle, hein, puisque je me retrouve en concurrence dans cette lutte des places avec tous ceux qui sont dans la recherche aussi des bonnes places. C'est pour terminer sur votre question, hein, comment retrouver, comment aider les personnes à ne pas s'enfermer dans le sentiment de honte. Il y a la question de la lutte contre le mépris. La lutte contre le mépris, c'est vraiment révolutionnaire. On l'a vu avec la question des gilets jaunes, par exemple. C'est une illustration de ces mouvements sociaux, hein, de ceux qui se sentent exclus, mal considérés, ceux qui ont le sentiment de ne plus avoir de place. Et ils exprimaient la fierté qu'ils éprouvaient de se retrouver ensemble, hein, sur les ronds-points, de faire des barbecues, ils disaient enfin on se parle et enfin on retrouve en fait quelque chose d'un collectif et d'une solidarité avec ceux avec lesquels on partage la même condition. Et je trouve, pour moi, Dieu sait qu'il est critiquable, mais la critique la principale que je ferais, parce que Macron est bien le représentant de ceux qui sont dans l'excellence, dans la performance, hein, qui pensent que les riches, c'est une très très bonne chose, puisque de toute façon, c'est eux qui apportent de l'argent pour l'ensemble de la société, et donc qui célèbrent vraiment cette idéologie managériale de l'excellence. Et là, il avait eu une idée qui était intéressante, hein, de faire ces cahiers de doléances, ce grand débat, en mobilisant, en renouvelant la démocratie, pour se parler ensemble, réfléchir ensemble, dire ce qui ne va pas et essayer de transformer la société à partir d'un appel, en quelque sorte, à l'ensemble de la population de se mobiliser autour de ça. Et c'est terrible parce que ça a été un marché de dupes et qu'il y a eu une vraie mobilisation sur ces grands débats. Il y a eu des cahiers de doléances, etc. Ils ont été mis dans un placard, comme on placardise les gens qui ne sont pas performants dans les grandes entreprises. Et ça, c'est une faute politique majeure de mon point de vue par rapport justement à la compréhension que si on veut construire un monde commun, c'est pas en célébrant, hein, l'excellence des uns et en produisant l'exclusion des autres, mais c'est effectivement de répondre, hein, à l'ensemble de recréer des collectifs où une parole collective puisse permettre à chacun de se retrouver comme sujet et de passer du sujet individuel au sujet collectif, donc au sujet politique.
Pour conclure, j'aimerais évoquer un passage qu'il y a dans votre ouvrage « Les sources de la honte ». Dans ce passage, vous expliquez que la honte n'est pas forcément toxique, qu'elle peut même être nécessaire. Ce qui, moi, m'amène une question, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, par rapport à la honte de son travail, qu'est-ce qui peut être sain dans le fait d'avoir honte de son travail ?
Alors, c'est transformer la honte en fierté qui est sainte. Hein. La honte peut être un aiguillon. C'est un aiguillon parce que j'ai tellement honte de moi que je supporte pas une partie de moi-même qui me fait honte. Et donc, je protège cet idéal que j'ai toujours, hein, d'être revalorisé, d'être meilleur, d'avoir de meilleurs résultats, etc. Donc l'ambition est un contrepoison, hein, par rapport à la honte. Et donc si je critique l'excellence, hein, pour autant il faut bien comprendre que c'est pas l'excellence en soi qui est critiquable, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui, hein, quand l'excellence produit l'exclusion ou qu'elle produit l'exclusion de ceux qui échouent. Donc la question, hein, essentielle, c'est de qu'est-ce qui peut permettre la honte est donc un aiguillon pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qui peut permettre de retrouver de la dignité, de l'estime de soi, de la confiance en soi, et que En fait, c'est retrouver quelque chose qui est au cœur de la condition humaine. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la nécessité de retrouver des solidarités pour construire un monde commun dans lequel chacun ait sa place. Donc, c'est là où il y a un lien entre retrouver le sujet en soi qui va se mobiliser pour essayer de sortir d'une condition inférieure, d'une condition qui le met en difficulté, et le sujet collectif, qui sont le fait qu'on a honte, et c'est là où la honte est un fondement du lien social. On a honte quand des gens sont maltraités, on a honte quand des gens soient... Vous souvenez sans doute, je me souviens, mais je le partage avec vous, du livre de Primo Levi, après les camps de concentration, qui s'interrogeait en disant « Mais pourquoi c'est nous les déportés au moment de la sélection, le matin, pourquoi c'est nous qui avions honte et non pas les bourreaux ?» Et il dit « On avait honte de penser qu'une telle violence puisse exister dans la condition humaine. » Et donc, retrouver la condition humaine, c'est effectivement penser que retrouver sa dignité, ça dépend aussi du fait que tout le monde partage ces mêmes valeurs de fierté d'être ensemble, de fierté d'une société dans laquelle chacun ait sa place et dans laquelle on refuse l'exclusion, on refuse la torture, on refuse la maltraitance, on refuse le viol, on refuse... Et c'est ça aussi que nous dit le mouvement MeToo, de prendre la parole pour renverser la honte et que ce soit plus du côté des victimes que la honte soit vécue, mais du côté des bourreaux. Et ça, c'est un vrai travail collectif et politique et qui fait que la honte est effectivement un sentiment profondément humain. Et lorsque l'humanité en soi dans son rapport à l'autre est écornée, la personne va s'investir pour restaurer des liens qui lui font du bien, parce qu'ils lui font honneur, parce qu'il retrouve du sens là où celui-ci a été invalidé. Si vous permettez, je vais évoquer le dernier livre que j'ai fait avec Isabelle Serret qui évoque cette question-là dans un autre champ que le champ du travail. Le livre s'appelle « Faire société malgré les attentats » et c'est l'histoire d'un groupe qu'on a créé avec Isabelle et avec des victimes des attentats du 13 novembre à Paris et du 16 mars à Bruxelles. Venait nous dire que pour me reconstruire, j'ai besoin de me reconstruire moi-même par rapport aux blessures. Il y avait des victimes qui étaient au Bataclan, il y avait des victimes qui étaient dans le métro à Melbeek de Bruxelles ou à l'aéroport de Zaventem, qui avaient été blessées plus ou moins grièvement, ou des proches de ces victimes qui étaient mortes ou qui avaient été blessées, qui nous disaient pour me reconstruire, j'ai besoin qu'on reconstruise la société. Et de penser qu'on vienne aux causes des attentats et pas seulement aux blessures que j'ai subies. Et on a été contacté aussi par des familles d'enfants qui s'étaient engagés dans le djihad, dont certains étaient revenus commettre des attentats en France, et qui disaient « nous aussi on est des victimes ». Parce qu'on n'a pas pu empêcher ce qui est arrivé, parce qu'on ne l'a pas vu ou qu'on n'a pas compris ce qui se passait pour nos enfants, etc. Et les seules personnes qui peuvent reconnaître que nous aussi on est des victimes, c'est en fait les victimes des attentats, parce que eux ils peuvent comprendre un peu, et qu'en voulant comprendre ce qui nous est arrivé, en fait c'est le même événement qui a produit le malheur des uns et le malheur des autres. Et d'ailleurs, il y a deux personnes du groupe qui ont écrit un livre qui s'appelle « Toutes les larmes des mères sont les mêmes ». Et donc, ça a été quelque chose de tout à fait exceptionnel de vivre cette aventure qui d'ailleurs continue à exister, où on voit que les victimes et les supposés bourreaux, en tout cas les familles des auteurs, se retrouvent pour refaire société malgré tout. Alors que tout devrait les opposer, ils retrouvent quelque chose, un sentiment de dignité, de fierté, par rapport à la honte que peuvent vivre les uns d'avoir été complètement dévastés par la violence des attentats et les autres d'avoir été complètement dévastés par le fait que c'est leurs propres enfants qui sont venus des auteurs de ces actes abominables. Et je terminerai pour illustrer ça, si vous permettez, par une citation de Nietzsche que j'aime beaucoup. « Ô mes amis, ainsi parle celui qui cherche la connaissance. Honte, 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 telle est l'histoire de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme noble s'impose de ne pas humilier les autres hommes. Il s'impose la pudeur devant tous ceux qui souffrent. »
Vincent de Gojac, merci. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré à la honte de son travail. J'en profite pour remercier Vincent de Gojac pour sa présence, évidemment, et je vous invite à lire ses ouvrages, parmi lesquels « Faire société, malgré les attentats » paru aux éditions ERES en 2024, ou encore « Les sources de la honte » paru en 2011 au Seuil dans la collection .sc. Merci et à très bientôt.